gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à tous, c'est La Causerie sur Radio Canu 102.2 de 22h à 23h tous les dimanches soirs. On est ravis de vous retrouver ce soir. Sinon vous êtes plein, on le sait. Au moins deux.
On l'espère.
Donc oui, La Causerie tous les dimanches soirs. Vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous entendre sur les ondes radio, ce que vous êtes en train de faire maintenant. Nous écouter en direct sur Radio Canu, directement. Il y a le lien qui est hop. Ça vous fait pareil. Vous pouvez, on a un podcast et qu'on retrouve où ça?
À blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Ah, c'est beau.
Voilà. Ou alors les blogs de Radio Canu, La Causerie, on nous trouve.
On a un mail aussi si vous voulez nous contacter.
Oui, c'est lacauseriecanu tout attaché à @gmail.com.
Et on a un numéro de téléphone si vous
t'exagères un peu quand même.
Ouais, mais je t'ai fait parler. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, pour pas le nommer.
Voilà.
Et voilà, donc à La Causerie, et puis vous pouvez partager toutes nos émissions, on les met à chaque fois. Merde. Très très systématique.
Donc ce soir, autour de la table, on a Stan.
Voilà, qui vient de commencer.
Hey.
Salut. On a Jean-Yves.
Bonsoir.
On a Clara.
Coucou.
On a Jonathan.
Salut.
Et Fab.
Salut à toutes et à tous.
Waouh, c'était beau.
On y va?
Non.
Bon, d'accord.
Prenons notre temps.
D'accord. Mais
d'accord.
Alors. C'est Jean-Yves qui ouvre le bal.
Oui, c'est ça.
Voilà. C'est quoi ta première danse?
Tu le verras. Tu me diras ce que t'en penses.
Allons-y.
Eh ben, je vais vous faire une petite info locale. J'essaie de prendre un peu cette habitude qu'on parle aussi un peu du local. Et là, en fait, c'est lundi 2 octobre. Il y a deux semaines, dirons-nous. Il y a le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un certain Laurent Wauquiez, qui annonce dans un communiqué de presse son soutien moral et financier au lycée privé, qui dit « Je crois fermement à la place de l'enseignement privé. Les établissements privés signifient pour les parents une promesse forte, celle de pouvoir amener chaque élève vers la réussite. » La vice-présidente, déléguée aux affaires scolaires, elle surenchérit et rajoute « La réussite du privé doit être un moteur pour l'ensemble du tissu éducatif régional. » Donc, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce ne serait donc plus l'enseignement public qui aurait la mission d'assurer la réussite des élèves, parce que bon, la région choisit délibérément l'enseignement privé à 95% catholique. Comme moteur de tout ça, hein, et donc l'école publique, elle, reléguée un petit peu dans ce qui est nommé tissu éducatif. Je trouve que ça donne une belle vision déjà de ce qui projette. Et donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, quand même, les élèves des lycées privés... Pardon, je t'ai coupé.
Non, mais j'allais dire que tout était dans sa phrase au départ.
Eh oui.
Parce que ça veut dire que le public ne garantit pas la réussite, quoi.
Bon, bah merci, au revoir.
Non, ben voilà, mais je trouve que c'est...
Ah oui, c'est très parlant,
hallucinant qu'on puisse écrire ça, quoi.
On est d'accord, bah le dire ici, bon... Donc, pardon, oui, pour continuer, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, les élèves des lycées de l'enseignement privé représentent seulement 27,5% de l'effectif des lycéens pour 44% des lycées. Ok ? Donc quand même, je veux resituer à toutes et tous, hein, qui ne sont peut-être pas à jour au niveau des infos de qui est donc ce Laurent Wauquiez, hein, peut-être un parfait inconnu pour certains, certaines.
Le futur président des Républicains.
Oh mais il casse tout.
Bah, je veux voir la réponse à toutes les questions, aussi, ça va être chiant. Hein.
Pardon.
Donc, Laurent Wauquiez, hein, qui est entre deux génuflexions et l'installation d'une crèche catholique dans le bâtiment de la région, et un voyage à Rome pour voir le pape avec Gérard Collomb, il se présente comme un grand laïc. Déjà la présentation, les deux phrases d'avant, elles disent déjà tout. Hein. Donc lui, comme à la façon d'une Marine Le Pen ou d'un Manuel Valls en fait, et tant d'autres soutiens ou lèche-bottes, ou enfin comme vous voulez, hein, de l'Église catholique, hein, ouvert ou caché, ne parle de laïcité que quand il s'agit d'islam. J'ai jamais remarqué. En dehors, ils sont pas très très laïcs.
Parce que c'est pas ça la religion. Enfin, il y a le laïcisme et l'islam.
Ça doit être ça. Pour Wauquiez, ça doit être ça. Donc, comme le disait Fab, hein, il brigue en ce moment la présidence des Républicains. Hein, attention, avec des positions comme il a l'habitude d'avoir, hein, assez réac.
D'extrême droite.
Voilà, tout de suite. Il en est pas loin, effectivement.
Ah bah, il en est bien. Un pied dedans, même.
Un pied dedans, c'est pas encore les deux. Donc, vous inquiétez pas, je pense qu'il sautera un jour à pieds joints dedans, mais pour l'instant, non. Donc, on connaît un peu le personnage, et vous allez dire, Wauquiez, il aime l'enseignement privé, catholique à 95%, pour rappel, comme ça. Et alors ? Il a le droit, non, enfin ? Il a le droit de ça ? Bien évidemment qu'il a le droit, Laurent Wauquiez, d'aimer ce qu'il veut d'ailleurs, hein, personnellement. Là, quand il parle, il est quand même en tant que président de région, hein, n'est-ce pas ? Et on s'imagine bien que ça va juste pas s'arrêter à une petite déclaration d'amour. Non, parce qu'il a le pognon, il a le pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, c'est que la région a décidé d'augmenter le soutien à l'investissement dans les lycées privés pour atteindre 13 millions d'euros par an, soit une augmentation de plus de 60%. Il est généreux. Hein.
Ouais, c'est un bon cadeau.
Mais... Ah oui, il est généreux. Et d'autre part, les forfaits d'externa, eux, seront maintenus au même niveau qu'en 2017. C'est tout, vous allez vous dire ? Non, il n'allait pas s'arrêter là, enfin. Non, parce que la région, elle décide aussi d'accorder une enveloppe de 50 millions d'euros supplémentaires aux lycées privés pour, je cite, la création ou l'extension de lycées privés dans des zones à forte tension démographique. Ces crédits seront puisés dans l'enveloppe du plan d'investissement sur 3 ans des lycées publics.
C'est un peu du foutage de gueule parce que rappelle-nous le nombre d'élèves représenté, c'est 27,5%, si je me souviens bien, alors que les lycées privés représentent
44%.
C'est-à-dire qu'il y a de la place dans les lycées privés. Mm-hmm. Hein ? Parce que ça veut dire qu'en fait, on surcharge les lycées publics, si vous faites un simple rapport, vu qu'il y a moins d'élèves dans plus de lycées. Hein, mm-hmm. C'est, vous avez 75% d'élèves qui sont dans le public,
c'est ça.
Qui représentent 66% des lycées qui restent.
C'est ça.
Voilà. Donc c'est sympa de donner des sous à des gens qui ont déjà de la place.
Oui, mais c'est normal, il faut bien réussir. Donc quand même pour le rappeler, hein, les crédits d'investissement dont je vous parlais des lycées privés, c'est pas des choses qui sont obligatoires, elles sont régies par des règles strictes selon la nature des lycées, lycées d'enseignement général, professionnel ou agricole. Et dans ce cas-là, donc de cette enveloppe, c'est la première fois, en tout cas ce serait la première fois, que des crédits d'investissement sont accordés aux lycées privés dans le cadre d'un plan concernant les lycées publics. Donc voilà. Donc quand même, on peut se rappeler que depuis des dizaines d'années, les millions d'euros octroyés par la région aux lycées privés dans le cadre des investissements sont directement intégrés dans le patrimoine des évêchés, et des congrégations auxquelles appartiennent les lycées. Donc, en même temps qu'on donne un peu au lycée, on engraisse un peu...
C'est un peu un financement indirect de
l'Église.
De l'Église.
Oh, vous y allez fort, hein.
Mais c'est pas comme si on allait contre la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui date du début du...
Oui, mais rappelez-nous, Laurent Wauquiez est pour la laïcité quand il s'agit seulement de l'islam. Le reste, c'est pas pareil. donc voilà, et alors un calcul aussi a été fait à partir de documents publics. qui sont issus des commissions permanentes, qui concernent la somme globale attribuée hein, au lycée privé en 2017 par la région, par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, pour leur fonctionnement et leur investissement. Et ce chiffre monte à 54 millions. Voilà, c'est un joli petit chiffre, hein, sympathique. Et donc, bah oui, alors, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, pour les plus radicaux, se place ainsi en excellente position pour devenir l'enfant chéri de l'Église catholique. Ils y travaillent quand même depuis longtemps, obéissant ainsi au doigt et à l'œil du clergé catholique, par nature insatiable, hein, c'est le propre de tous les clergés, et qui réclame pour ces établissements une proportion toujours plus forte du budget en fait de l'éducation nationale. Et je rappelle quand même ici, c'est que on avait déjà parlé quand même justement de cette proximité entre les politiciens lyonnais, les politiciennes et les religieux. Hein, et donc tout ça, ce serait soi-disant pour notre bien vivre ensemble. Ok. Donc n'oublions pas non plus, hein, parce que ça c'est aussi une info importante et un chiffre important, que bah, l'État pour sa part prend en charge tous les salaires, sauf ceux des agents de service, donc qui eux dépendent des communautés territoriales. Et donc à l'échelle du pays, hein, pour l'ensemble des établissements privés, c'est plus de... Allez, combien ? Combien de milliards ?
C'est le grand jeu ce soir.
Ouais, 17.
Oh, t'y vas un peu fort.
Non, parce que j'ai toujours 17 quand on me pose ça.
Ah, d'accord. Et ben là, c'est plus de 8 milliards, en fait, que l'État finance, enfin, file aux établissements privés. Alors, on peut se poser la question ensuite, c'est comment que ça se fait quand même, tout ça ? Parce que c'est ce que tu disais avant, Jonathan. Et ben en fait, c'est la loi Debré du 31 décembre 59, hein, 1959, qui a instauré les contrats d'association entre l'État et les établissements d'enseignement privé. Ce qui a mis à la charge de l'État, donc de tout le monde, leurs dépenses de personnel enseignant et le forfait d'externat des établissements du second degré.
Bah oui, parce que l'arnaque de la loi Debré, c'est que comme il faut une éducation pour tout le monde qui soit universelle, on dispense du coup les moyens, donc les professeurs, voire les salles, etc. Et le reste, bien sûr, est à la charge de l'établissement. Mais il reste quoi ? Enfin,
ah oui. Voilà. pas
mis à part le personnel, oui, qui est important, mais...
Oui, oui, oui.
Voilà. Ben... Comme un hôtel.
Et donc, alors ça, oui, c'est aussi sur le fonctionnement, sur comment que c'est payé, tout ça, c'est à la charge aussi des communes, les frais de fonctionnement des classes de l'enseignement privé du premier degré, dans les mêmes conditions que l'enseignement public.
Le primaire, quoi, en fait.
Oui. Et à la charge des départements et des régions, l'argent couvrant les frais de personnel non enseignant et de fonctionnement divers des collèges et lycées. Alors on peut se dire ça s'arrête là, mais non, ça s'arrête pas là. Parce qu'en plus de la loi Debré, donc il y a la loi Fallou, qui continue de s'appliquer pour soutenir l'investissement dans les lycées privés. Et il y a aussi, parce que bon, deux lois, c'était quand même pas suffisant, donc on en a mis deux autres. C'est les lois Astier et les lois Rocard, qui offrent aux collectivités publiques la possibilité d'aider les opérations immobilières des établissements privés d'enseignement technique et agricole sans limitation de montant. Voilà. Donc tout ça pour dire que... pour dire quoi ? Bah déjà tout ça pour pas dire... Enfin, je vais pas dire là que dans l'enseignement public, tout est formidable, tout va super bien, c'est le pays des bisounours. Non, c'est pas du tout le cas. On sait que les moyens manquent dans l'enseignement, les moyens financiers et humains, de mon point de vue, hein, manquent dans l'enseignement public. C'est une réalité. Les classes surchargées, même si certains disent faire des efforts, etc., c'est encore pas suffisamment pour moi à travers partout, enfin, sans spécificité de zone ou autre. Je pense que les classes à 12 élèves, en fait, ça devrait être partout. Parce que je pense que c'est quelque chose de formidable pour tout le monde, en fait, de pas être dans des gros groupes, etc. Donc ça, c'est une réalité, hein. On sait aussi que l'émancipation individuelle n'est pas forcément la mission première, hein, de l'éducation nationale, hein, tout comme la coopération, elle n'est pas vraiment là, c'est plutôt la compétition du tous contre tous. Et comme aussi bah, la hiérarchie, la position, etc., très hiérarchie quand même de l'école, je vais pas la mentir. Enfin, l'idée, c'est pas du tout ça. Mais alors, même si, je me dis que même si je suis conscient de ça, en fait, pour moi, ça n'entraîne pas la mise au nu du service public de l'enseignement au profit de l'enseignement privé. Parce que quand même, moi, je me dis, enfin, il faut quand même qu'on s'interroge tous et tous, hein, même si je me définis anarchiste, auquel anarchiste c'est pas aujourd'hui, mais demain, en fait, c'est qu'est-ce qu'on vise ? Comment on s'organise ? Est-ce que, en fait, Est-ce que ce sera quand même une notion de commun, de connaissance commune, etc. Ou est-ce que ce sera selon les moyens que tu as, selon la catégorie sociale que tu as, est-ce que c'est ça qu'on vise? Donc c'est aussi, je pense à nous toutes et tous, tout le temps, de s'interroger aussi sur ça, en fait, et que pareil, en fait, moi, défendre l'enseignement catho et tout ça, c'est aussi... parce qu'on pourrait dire, oui, mais l'enseignement, tu vois, la pédagogie, c'est pas forcément la même... Moi, j'ai envie de dire, dans un cercle qui est à 95% catholique, donc qui croit en Dieu, donc avec une supériorité, avec une notion de d'être supérieur, je ne sais même pas si c'est être, d'ectoplasme. d'ectoplasme supérieur à tous.
Et gluant.
Oui, sûrement, très, très ouais. Il doit être égluant, Dieu. Comment on peut s'attendre de ces milieux-là, des pédagogies qui seraient sans hiérarchie, horizontales, etc., quand on sait que tous, après l'école ou pendant l'école, ils vont aller prier Dieu qui est un être supérieur. Donc, c'est accepter la hiérarchie d'office, en fait. Donc, voilà, moi, c'était pour ça, c'était pour montrer que finalement, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avant que l'Église et toutes les religions restent dans leur giron à elles. Et pour celles et ceux qui veulent mettre leur gosse dans des trucs privés, j'ai envie de vous dire, organisez-vous, démerdez-vous, quoi, parce que je préfère l'idée d'un bien commun qui soit là pour le plus grand nombre et voilà quoi.
Mais le pire dans tout ça, c'est que les parents payent aussi.
Mais ah oui, ils payent aussi.
Donc finalement, ça qui est fou, c'est que c'est un système pour faire du fric qui n'assure pas forcément la réussite des élèves parce que sinon ça serait significatif. Il y a toujours un ou deux journaux de droite pour publier le résultat au bac, etc.
Mais donc, comme ils virent souvent les élèves avant le bac, c'est facile d'avoir des bons résultats.
Mais bien sûr, il y a des stratégies.
C'est connu.
Voilà, c'est ça, c'est que c'est au-delà de l'aspect financier et de l'aspect vol, pour moi, du bien public. Il y a le fait que ça n'a aucune crédibilité, mais bon.
Mais ça marche.
On laisse faire.
Et on va surtout vers une privatisation totale de l'éducation nationale, en fait. C'est ça qui est très inquiétant. Mmh. La première chose, c'est même pas quelque part. Oui, c'est déjà très inquiétant que ça soit sur un côté, c'est pas laïque, etc. Mais en plus, on va sur quelque chose où l'éducation va devenir payante. Parce qu'à force d'enlever les moyens dans l'éducation nationale, au final, qu'est-ce qui se passe?
Il y a 8 milliards à récupérer.
Et tu oublies les 54 millions aussi d'autres financements.
Ouais, mais si tu réinjectes ne serait-ce que les 8 milliards dans le public, je peux vous dire qu'il n'y aura plus de problème de classe.
J'ai l'impression qu'il y a un fossé entre les chiffres.
8 milliards par an, c'est ça?
Oui.
Ah ouais, c'est
des infos que j'ai. Oui, à l'échelle du pays, c'est 8 milliards. Ouais.
C'est bien.
C'est ça. 8 milliards, pourrait peut-être en faire quelque chose dans l'enseignement public. Enfin bon, voilà, donc l'idée c'est que chacun, chacune, on réfléchisse à tout ça, quoi. Voilà, peut-être qu'on passe à la musique, ou vous aviez... Non, c'est bon. Allez, on passe à la musique. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et là on vient de s'écouter le groupe Mercure avec le titre The Serpent. Et je fais une petite point de dédicace, un petit bisou à toi Laurent si tu m'écoutes. Bisous bisous. Voilà, et ben on continue et c'est Jonathan qui prend la suite et qui va nous parler d'un film, d'une série, etc.
Mais de plein de choses, de toutes ces choses en fait, finalement d'une réalisation globale qui s'appelle Hot Girl Wanted. Donc comment j'ai découvert ça, c'est sur une série, enfin c'est sur Netflix, et j'ai découvert une série qui s'appelait Hot Girl Wanted Turned On. Puis j'ai regardé un épisode ou deux, j'ai trouvé ça génial et je suis allée me renseigner, j'ai décidé d'en parler à la causerie. Alors tout part du film en fait qui s'appelle Hot Girl Wanted, qui sort en 2015, qui est édité sur Netflix en fait, qui n'est pas paru en DVD et qui sort donc au cinéma le 30 mai 2015 notamment, en étant nominé à deux festivals américain. Le premier étant le Primetime Emmy Award donc de 2015 et le second le Sundance Film Festival. Alors le premier, le Primetime Emmy Award, c'est un petit peu la récompense des jeunes cinéastes hein, à Cannes. Et puis le Sundance Film Festival, c'est un petit peu le festival du film décalé underground aux États-Unis.
Film indépendant, comme on dit.
Voilà, avec
une chance sur deux de s'endormir devant.
En fait, le principe, c'est qu'on peut présenter tous les films à n'importe quel budget à partir de 1€.
Oui, non, mais voilà, c'est un festival qui est assez extraordinaire quand même. Enfin, il y a vraiment des choses merveilleuses qui en sortent.
Donc le film Hot Girl Wanted est nominé à ces deux festivals. Il est produit par Rashida Jones, dirigé par Jill Bauer et Rona Gradius, et il est écrit par Brittany Yukabi. Alors, pourquoi je vous présente ça comme ça? Parce qu'en fait, c'est une œuvre totalement féminine, c'est-à-dire réalisée par des femmes, écrite par des femmes, produite par des femmes, qui, c'est un film documentaire qui suit des actrices porno amatrices débutantes, donc c'est un docu-portrait, et qui a comme sous-titre « Welcome to the digital age of porn », donc « Bienvenue dans l'âge digital du porno ». Et donc l'idée c'est de suivre ces actrices qui finalement sont travaillent sur internet et sont essentiellement des cam girls, ont des projets de réussite, des projets d'avenir, on sort du stéréotype de l'étudiante qui fait ça pour payer ses études ou de la personne qui n'a pas le choix, mais là on va suivre des femmes qui ont des situations très différentes. Il y a, il me semble, 9 portraits donc dans ce documentaire et l'idée en fait c'est de présenter les choses sans concession et sans le filtre du jugement. Il n'y a pas de voix off. C'est bon, certes, c'est écrit, c'est monté, c'est quand même un docu, pas fiction, mais un docu-film. Et donc, dans l'idée, c'est quand même, il y a quand même un point de vue qui est défendu par les réalisatrices, donc il y a un point de vue, sans doute, assez féministe. Même si elles, j'y reviendrai, ne se déclarent pas comme féministes, mais plutôt égalitaristes. Mmh. Et donc un vrai désir de montrer cette forme de prostitution comme une profession et finalement la possibilité de enfin reconnaître la prostitution comme une profession à part entière avec la sécurité qui doit aller avec, etc. Donc il y a un petit peu ce plaidoyer à travers le film. Et je l'ai trouvé intéressant, surtout après avoir regardé la série qui en découle. Donc j'ai pris les choses un petit peu à l'envers. Et la série en question, en fait, c'est une série qui apparaît en 2017, donc fin 2016, début 2017 sur Netflix, qui est donc co-financée par Netflix et qui est prévue pour cette plateforme-là. Et parce qu'il y a eu un succès inattendu finalement du film Hot Girl Wanted et parce qu'il y a eu un vrai questionnement finalement autour de cette nouvelle sexualité avec Internet, comment, quelle forme elle a prise, surtout ce nouveau commerce sexuel. Donc dans le film, il y a, je vous spoil un peu, donc bouchez-vous les oreilles pour ceux qui n'ont pas envie, ça va durer 30 secondes, mais dans le film, c'est un petit peu le suivi de ces femmes qui sont aussi en colocation dans une maison. Il y a un type qui leur loue des chambres, et donc du coup il n'est pas proxénète mais bailleur, alors que bon, il fait exactement le même travail, hein, il les console, il les protège, il est là, hein, et, voilà, et il touche du pognon sur ce qu'elles se font puisqu'il leur loue leur chambre pour, voilà, c'est pas forcément le grand luxe non plus, la villa en question, et en fait c'est assez marrant cet œil qu'il y a sur le sur la situation de chacun sans jugement. Enfin, ça laisse se poser des questions, et des questions qui du coup sont un petit peu posées aussi dans le documentaire qui suit ensuite, enfin la série documentaire, donc qui s'appelle Hot Girl Wanted Turned On, donc les coulisses, enfin le making of entre guillemets, et qui en fait toutes les questions qui ont bah, qui amènent à cette pornographie, enfin les situations. Donc on a 6 épisodes dans la saison 1, hein, donc ils sont 6 portraits. Donc le premier s'appelle Les femmes aux commandes, et c'est un petit peu des femmes qui sont productrices et réalisatrices de photos et de cinéma pornographique érotique. Voilà, donc c'est leur quotidien, leur vision des choses, etc. Là, le second épisode, c'est, enfin le deuxième, c'est Love Me Tinder. Donc c'est bah, finalement au regard du comportement d'un type qui n'a des relations qu'à travers ce type de médias. Comment il va envisager sa sexualité, comment il va envisager une relation profonde, et sur tous les plans, il n'y a pas que la question sexuelle qui est abordée, il y en a d'autres aussi, et c'est voilà, c'est intéressant. Il y a le troisième épisode, c'est il faut contrôler son propre contenu, donc c'est la question bah, finalement de qu'est-ce qu'on révèle, qu'est-ce qu'on révèle pas, jusqu'où on est prête à aller dans le porno en tant qu'acteur actrice, qu'est-ce qui se montre et qu'est-ce qui se montre pas, parce que oui, il y a des codes, et il y a des codes qui font qu'on peut rater une carrière. Donc voilà, il y a Les Jacques en quatrième épisode qui parle de, bah, du quotidien d'un acteur porno, hein, finalement, et de son agent, qui est un petit peu le pendant de l'épisode précédent, entre guillemets. Passons en privé, cinquième épisode qui est une cam girl qui rencontre un de ses plus vieux clients et amis. Et qu'est-ce que finalement ça a d'étrange ce type de relation, et en même temps, encore une fois, sans jugement. Donc avec. Voilà, ça c'est. Et le sixième épisode qui s'appelle N'arrête pas de filmer, qui est l'histoire, enfin le témoignage d'une jeune fille qui a été arrêtée parce qu'elle filmait un viol sur une application type WhatsApp, etc. Et en fait, bah, c'est fou parce qu'elle elle parle de ça, elle se rendait pas compte de son acte.
De ce qu'elle filmait, en fait.
Si.
De ce qu'elle filmait, si.
De ce qu'elle filmait, si, mais de l'impact que ça avait, non, parce qu'elle dit une phrase qui m'a personnellement choquée. Donc là, encore alerte, spoiler. Mais elle dit vu le contenu, en fait, qui défilait tous les jours sur ce site, je ne me suis pas dit que j'allais publier autre chose que ce qui était. Bah finalement commun, et donc ça c'est impressionnant, et le donc du coup la série est extrêmement bien faite pour ça, parce que quand elle présente toutes ces questions, toutes ces problématiques par rapport à largement la sexualité, et ben elle interroge aussi quel rapport on a aux médias, quel rapport on a avec des supports qui nous permettent de communiquer là-dessus, parce que la communication sur le sexe est importante. Et comment finalement, avec notre société qui est de plus en plus individualiste et pas de plus en plus dans la prise en compte des individus, hein, on en arrive à avoir des situations qui, il y a quelques dizaines d'années, étaient complètement inimaginables. Et en même temps, il y a une poésie. Enfin, moi, j'aime bien leur regard là-dessus. C'est bien fait. C'est très bien fait. C'est pas pathétique. C'est poétique.
C'est bienveillant comme regard.
C'est très bienveillant. C'est voilà. Donc, ça interroge la présence du sexe dans ce qu'il a de pornographique, d'érotique, de sentimental, de lucratif, et également de dégradant, et bien finalement aussi de un petit peu de comment dire, quand ça élève une personne un petit peu au rang de star, ça a un côté idole et compagnie. Et dans un monde où finalement les médias, enfin les nouveaux supports médias jouent un rôle sur la popularité qui est insensée, hein. Enfin, on se croirait dans un épisode Black Mirror, une série encore une fois. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas de jugement. Comme le film, la série laisse beaucoup de questions à se poser soi-même, Donc, à vraiment réfléchir notre propre positionnement par rapport à cette nouvelle façon d'envisager pas que le porno, mais les relations sociales et sexuelles en général. Et je conseille d'aller voir sur Allociné, le site, un petit bonus d'une interview des deux productrices directrices, donc Jill Bauer et Rona Gradius, qui explique que leur film et leur documentaire est adressé à tous, donc aux hommes parce que ça leur plairont, aux femmes parce que ça leur plairont, aussi aux parents parce que ça leur feront peur, et puis aussi aux enfants parce qu'il n'y a pas d'âge pour être éduqué à la sexualité et que bah, ça fait partie de notre monde, c'est comme ça maintenant et on ne peut pas mentir voilà, éternellement sur la société. De toute manière, ils y ont accès, hein. Donc c'est très bien, enfin voilà. Tout ça pour présenter l'essence Hot Girl Wanted, entre guillemets, qui veut que, ben, à un moment donné, il y ait une prise réellement de la parole de la part des femmes sur des sujets où lesquels, bien souvent, à mon avis, on les contraint au rang de victimes, hein, ou de personnes qui n'ont pas le pouvoir ou qui n'ont pas. Je dis pas que c'est faux, mais je dis qu'à un moment donné, si on veut inverser la vapeur, ben, il faut arrêter de procéder par prophétie autoréalisatrice et laisser les femmes prendre la parole et l'espace dans ces milieux-là. Et donc là, c'est exactement ce qu'elles font. C'est intéressant, c'est aller voir, et même si vous n'avez pas Netflix, c'est pas grave, cherchez un peu, je suis sûre que vous allez trouver tout ça. Donc c'est Hot Girl Wanted pour le film et Hot Girl Wanted Turned On pour la série.
Ben, ça a l'air très très bien.
Oui.
Voilà, si ça... je sais pas...
Si. Ah ben moi en tout cas, ça me donne envie de regarder, parce que justement je trouve que c'est intéressant, en plus comme tu le présentes, c'est la notion de pas donner forcément leur point de vue, même si je pense que des fois on peut peut-être sûrement le deviner, ou je sais pas comment dire, enfin
c'est pas totalement objectif.
Oui enfin en même temps, enfin,
rien n'est objectif, même pas la causerie.
Voilà.
Dans des situations comme ça, quand tu filmes ça, etc., d'être totalement neutre dans ton image, dans ton coupe, dans ton montage, dans tout ça, c'est difficile. Donc, bah, c'est pas le but non plus, hein.
Bah, et puis enfin moi je pense pas, je crois difficilement à la neutralité. C'est vraiment quelque chose qui, moi, mis à part la Suisse, il y a très peu de gens qui sont neutres. Et on ne sait pas. Et non, mais je trouve que c'est hyper intéressant, justement. Et en plus, ça balaye, on va dire, un peu tous les acteurs et toutes les actrices de ce milieu-là. Ça va autant, effectivement, comme tu disais, bah, des cam girls, donc les femmes qui font des shows par webcam, etc., aux acteurs, à ceux qui consomment aussi ce genre de vidéos. Et je trouve que c'est intéressant. Ben enfin ouais, tu m'as donné envie de regarder ça.
Bah ça me fait plaisir, et puis bah je laisserai le lien du coup du bonus Allociné sur le blog.
Ben oui.
Ouais. Voilà.
Ouais.
On se met un peu de musique.
C'est pareil aussi.
We've been programmed into them schools to be used as tools, slaved by the system, but they will never prevent us from shining in the dark.
C'est quoi? Hors de question de raser les murs, je veux les briser. Chez moi l'ambiance est bien trop morne, je suis venu d'électriser. Habité d'une soif de vivre que personne ne monnaie. Y'a dans mon camp des pépites d'or à faire pâlir le soleil. À trop courber les chines, la coupe est pleine de rage. Et le schéma se reproduit quand nous moufle et prenne de l'âge. Alors comprends qu'ici la soif de revanche est maladive. Parce que je viens d'un monde où y'a pas d'autre alternative.
Warriors of Light, yeah. Hey! Born in a ghetto, raised in a disco. profane. Aspiration verticale, j'ai l'intention de me redresser. Direct, c'est l'agression frontale pour qui voudrait me rabaisser. Y'a qu'une façon de s'en sortir et tu peux me croire. L'époque est sombre, on est réduit à devoir briller dans le noir. Hey, now that I'm seeing the light, Babylon can't blur my sight. I know I got this fire inside in a low or high tide. Babylon could have never spoiled the ride. I'm the captain of my ship, giving the Lord my soul to keep. I giggle and I laugh to hear them whip. Thought they thought we would never make it, but now we pass through. And we're sitting on the throne, and guess who's laughing? We still stand alive. Warriors of light. Born in a ghetto, raised in a tower. Fresh out from the gutter, we got to shine in the dark. Born in a ghetto, raised in a tower. Fresh out from the gutter, we got to shine in the dark.
On doit briller, briller, briller dans le noir. Réponds présent au rendez-vous.
Your future lies within your hands, don't let them control you.
Hommage aux fils de rien, ceux qui résistent et rendent les coups.
Every man deserves his share, so take what is for you.
J'ai dit l'espoir est dans la lutte, réponds présent au rendez-vous.
Your future lies within your hands, don't let them control you.
Hommage aux fils de rien, ceux qui résistent et rendent les coups.
Every man deserves his share, so take what is for you. Born in a ghetto, raised in a tower. Fresh out from the ghetto, we got to shine in the dark. Born in a ghetto, raised in a tower. Fresh out from the ghetto, we got to shine in the dark.
On doit briller, briller, briller dans le noir.
We got to shine, 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 shine.
Oui, on doit briller, briller, briller dans le noir.
We got to shine, 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 shine in the dark. Born in a ghetto, raised in a tower. Fresh out.
Briller dans le noir.
We got to shine, 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 shine.
Oui, on doit briller, briller, briller dans le noir.
We got to shine, 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 shine in the dark.
Et bienvenue à nouveau dans la causerie, parce que voilà, on était là juste avant. Juste avant quoi? Juste avant La Canaille avec Briller dans le noir, donc un titre issu de son album La Nausée. Et Fab, tu vas nous parler.
Oui. Alors oui, je te confirme, je vais vous parler.
Ouais, mais tu parles
ça.
C'est fou.
Alors je vais vous parler de 16%, c'est pas beaucoup quand même. Voilà, c'est le titre de ma chronique de ce soir.
J'avais plein d'autres titres possibles pour cette chronique.
Oui, mais là, je le trouve. Je me suis dit, on va mettre ça. Alors, le chiffre, justement, 16%, c'est tout simplement le nombre de femmes qui disent avoir eu un orgasme lors de leur dernier rapport sexuel dans une enquête très récente, contre 90% des hommes. Voilà, l'étude date de début 2017.
On a gagné.
Voilà, on sent le fouteux qui est en toi.
Fuck.
Alors, comment on peut expliquer ce chiffre? Parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, je ne vais pas approfondir, je ne vais pas passer 3 heures à expliquer ce chiffre. Je vais d'abord vous renvoyer aux chroniques faites par Dédé, Jean-Yves, Emma, Jonathan, Mel ou moi-même ces dernières années dans la causerie, parce qu'on en a parlé plein de fois. Voilà, donc elles contiennent toute une part de réponse. Et en gros, ça vient déjà du poids de la société, de la virilité malsaine et du patriarcat, du poids du religieux sur les mœurs et de la culpabilisation de la chair, et du rôle des pornos dans la dégradation des rapports humains et sexuels ces dernières années. Ça tombe bien, on vient juste d'en parler. Au final, ce chiffre est donc pas une réelle surprise, mais il a quand même de quoi nous interroger dans une société censée être plus égalitaire et libérée sexuellement. Parce que si on parle d'égalité, le chiffre devrait être à peu près identique, 90-90.
Et même sans parler de surprise, 16%,
c'est assez faible.
C'est
quand même.
Ouais.
Alors on notera au passage quelque chose d'assez frappant, c'est que au cours de l'enquête, ils ont interrogé les partenaires, hommes ou femmes, des femmes qui ont répondu. De ces fameux 16%. Donc la réponse a été soit je ne sais pas si elle a pris son pied, en passant par mais bien entendu c'était avec moi quand même, et en finissant par je sais pas et je m'en fous parce que moi oui. Voilà, je vous donne à peu près le panel des réponses, donc c'était pas très très encourageant.
Et c'était tellement assumé, le mec qui a dit non je m'en fous.
Ouais, voilà. C'est, voilà. D'ailleurs, je le signale, il y a une petite vidéo qui circule en ce moment avec une journaliste qui pose la même question, qui s'est inspirée de cette enquête. Elle va dans la rue, elle tend le micro à des hommes en couple, voilà, et elle a à peu près les mêmes réponses. Donc on voit que l'enquête comme la vidéo, on arrive à peu près au même résultat. C'est un peu dommage. Là, c'est un cœur du problème, hein, c'est qu'on on voit bien que la sexualité, elle est trop androcentrée, comme on dit, donc c'est-à-dire centrée sur les mecs, et phallocentrée, c'est-à-dire centrée sur les queues, et le fait de gicler, hein, pour être très clair, c'est la sexualité dans nos sociétés, et que rien dans nos sociétés ne va dans le sens d'une sexualité centrée tout simplement sur le partage et le plaisir, parce que c'est un peu ça le problème au final. Voilà. Pour reprendre justement l'exemple des pornos dont on parlait juste avant, ils sont très, en fait, normalisateurs. Pas moralisateurs, mais normalisateurs. Ils ont tendance à normaliser un maximum la sexualité. Dans une étude récente faite par des universitaires suédoises, elles ont démontré que dans les pornos amateurs comme professionnels, 89% des scènes qu'elles ont étudiées avaient un déroulement similaire. Fellation, léger léchage de clitoris, pénétration vaginale courte, fellation, pénétration anale longue, fellation, post-coït et éjaculation faciale. Voilà.
Surtout, enfin, outre ce cadrage très précis, dans tous les cas, dans le porno, la fin, c'est à l'éjaculation. Il n'y a jamais eu un orgasme féminin après l'éjaculation. Ça n'existe pas dans le porno, je pense.
Ça, c'est clair. Mais surtout, ce qu'elles expliquent, c'est que, bon, il y a cet aspect-là, effectivement, mais il y a surtout le fait que 89% des scènes sont identiques. Avec, bon, elles n'ont pas chronométré, c'est pas à la seconde près, mais c'est le déroulé est à peu près le même. Donc, on voit que c'est une norme qu'on impose, parce que finalement, on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas de problème à ce que les gens voient toujours la même chose. Vous voyez, penser que le porno n'aurait pas d'influence sur le comportement sexuel des gens, c'est un peu se leurrer. Je rappelle qu'aujourd'hui, en fait, il y a 89% des gens qui regardent du porno. Hein. Donc voilà, sincèrement, c'est le même chiffre, mais c'est un hasard.
C'est un moyen de se renseigner et d'éduquer au sens large. Je suis désolée, mais c'est bien là le problème d'une normalisation, en fait.
C'est pas éduquer, c'est voir.
C'est ça.
C'est pas la même chose. Bah, j'y reviens après. Oui.
Quand t'as pas d'autres référents, me demande si ne voir ne devient pas ton éducation.
C'est bien ça le problème.
Oui, mais du coup, c'est pas éduquer. Éduquer, c'est expliquer les choses. Voilà, c'est éduquant. Peut-être. C'est renseignant.
C'est un caractère éducatif.
Mais en fait, bon, du coup, ce qui est important, c'est que ça entraîne, en fait, finalement, une normalisation aussi des rapports sexuels dans la vie de tous les jours. Il est, par exemple, démontré que l'abus de pornographie arrive quand on dépasse plus d'une heure par jour d'images et de vidéos pornographiques. Ça, c'est le seuil, en fait, on dit où on tombe dans une forme d'abus. C'est à peu près la même chose, comme disait l'article que j'avais lu, quand on dit que quand on dépasse 2 litres de coca, en fait, on est addict au coca. C'est-à-dire que c'est pas une vraie addiction, c'est pas, voilà, mais c'est une notion d'abus. On dépasse un seuil qui n'est pas terrible pour soi, quoi. Voilà. Cet abus a des effets si on y prête garde. Alors, par exemple, il y a la perte de repères et de la mise en pratique de pratiques pas forcément souhaitées. Voilà. Il y a un malaise dans les couples en général parce que l'autre n'est plus l'objet d'amour et l'objet que d'amour, mais pas de désir, parce que le désir est sur l'écran. Le mal-être dans son corps, on se compare à des Superman tous les jours et c'est pas très très bon pour les hommes, et on se compare à des top modèles en réalité siliconée, refaite ou même retouchée, et pour les femmes c'est pas mieux. Et il y a une perte d'excitation et de capacité à jouir sereinement, parce qu'en fait au final on sait plus vraiment comment jouir sans avoir un stimuli visuel. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est que ça change en fait le rapport à la jouissance. Bien entendu, ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Enfin, je soulignais ça parce que pas croire que vous regardez plus d'une heure de porno par jour, vous arrivez tout ça. Non, c'est pas tout en même temps. Mais c'est des trucs qui arrivent. Il y a une étude anglaise qui a été faite sur les jeunes femmes de 15 à 25 ans qui donnait un résultat assez étonnant. 60% de ces Anglaises pratiquaient la sodomie, mais sur ces 60%, 40% le faisaient sans plaisir, mais pour leur partenaire. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui du coup arrivent par du fait d'une normalisation et du fait qu'il faut faire, vous voyez, c'est le truc. Et donc c'est la normalisation d'une pratique par la pornographie, et c'est un exemple concret, et ça a vraiment surpris les gens qui avaient mené cette enquête sociaux, parce que c'était d'ailleurs des deux jeunes Anglaises qui faisaient une thèse, et qui disaient, mais c'est quand même dingue, parce que arriver à se dire que 40% des gens qui le pratiquent le font sans aucun plaisir et juste pour l'autre, alors c'est une forme d'abnégation, mais c'est violent quand même.
C'est pas que pour l'autre. Il y a la pression sociale, en fait. Tu peux pas dire, moi je le fais pas, alors que tout le monde le fait parce qu'on a considéré que c'était normal. Donc c'est même pas que pour ton la personne avec
qui mais c'est dans ce sens-là. Enfin, oui. Il faut le faire, quoi. Je sais pas si vous voyez, c'est à faire et donc voilà, on y passe et on serre les dents, quoi. Je suis un peu violent, mais ça peut pas aider.
Ce qui est vachement dur quand même quand on se dit qu'à la base c'est un acte d'échange, de communication, etc. De souffrir de ça. Enfin, c'est pas une agression à proprement. Enfin, c'est une auto-agression sexuelle pour moi quand tu fais des trucs que t'as pas envie au pieu.
Voilà. Je te laisse la définition. je vais continuer sur ce que donc là je vous donnais des exemples. Encore une fois, je vous renvoie à d'autres chroniques qu'on a pu faire dans le passé parce que je vais pas refaire un listing, mais c'était 2-3 trucs que j'ai glanés à droite à gauche autour de ce chiffre de 16% hein, sur lequel on reviendra. Mais du coup, que faire, comme dirait Lénine? Non, ça c'était pour déconner. Les pistes. Oui, bon. Les pistes en fait sont nombreuses, mais je vais essayer d'en donner quelques-unes sans tomber à mon tour dans une volonté de normalisation, parce que c'est pas le but non plus, hein, voilà. C'est juste des choses que j'ai trouvé en fouillant sur ce sujet à droite à gauche, voilà, comme ça. Alors, par rapport au religieux à son poids sur nos vies, ben, pour moi, il me semble urgent de remettre à minima la laïcité au centre, hein, parce qu'on se rend compte que plus un pays est laïque, et en fait, moins la sexualité est bridée, donc du coup, on voit bien qu'il y a un lien direct. D'arrêter de demander l'avis des religieux sur le sexe, la contraception, l'éducation sexuelle, etc., parce que ça ne les regarde pas, hein, donc leur posons pas la question. Et surtout, pour moi, poursuivre et relancer le combat anticlérical est une urgence absolue. Ça, c'est moi. Voilà. Pour ce qui est de la virilité, alors comme le disait Jean-Yves, qui nous cite régulièrement un livre, le refuser d'être un homme, c'est bien dans les comportements et l'éducation que les choses reposent. C'est bien là un choix de mettre ou non en pratique ses envies, et surtout un choix très politique de refuser la pression d'une société patriarcale pour mieux la dépasser. Je le dis parce qu'en fait, on se rend compte que dans toutes les études qui ont été faites, ce qui revient régulièrement, c'est la position de l'homme en tant que être viril et être sexué. Vous voyez, voilà. Igor, comme dirait la lesbienne invisible. Voilà, donc on est un petit peu dans cet esprit-là, et donc oui, c'est un choix politique, mais c'est un choix d'éducation aussi, parce que si vous ne le faites pas vis-à-vis de vos enfants, et ben effectivement, vous allez retranscrire, vous allez passer la même
transmettre,
voilà, la même idée. Pour le porno, et ben il faut déjà rapidement parler et faire l'éducation populaire justement autour de la pornographie. Rappelez déjà tout simplement que le porno, c'est les films de super-héros du sexe, hein, c'est pas autre chose. Que ce qu'on voit y est faux à 90% et que même les éjaculations sont plus des trucages à base de méthylcellulose que de vraies éjaculations. Hein, je vous laisserai chercher ce qu'est la méthylcellulose. voilà. Mais aussi revenir sur le caractère profondément machiste de cette industrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le poser sur la table et dire, il faut rappeler que le porno, c'est fait quasiment que par des hommes et pour les hommes. Donc il y a forcément une orientation.
Ouais, alors après, je sais que même ici, on a déjà parlé des pornos, on va dire, alternatifs, féministes. Ça existe, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est juste, c'est peanuts, quoi.
Pas la majorité.
Ah ben non, mais face à l'industrie du porno, le porno féministe, enfin, c'est pas grand chose. Donc oui, on sait qu'il existe, mais de là à croire que c'est une généralité, faudrait pas non plus se mentir.
Et également, n'allez pas croire que le porno amateur est amateur.
Oui, il y en a beaucoup qui sont des faux porno amateurs, hein, très clairement.
Le porno amateur, c'est un style de porno.
C'est
pas du tout amateur.
Ouais. Et aussi rappeler des règles aussi simples que non, c'est non. Et quand c'est pas exprimé, c'est non aussi. Alors là aussi, c'est une étude allemande qui a été menée. Tu en parlais justement sur la jeune femme qui avait filmé un viol sans se rendre compte qu'elle filme un viol, parce que c'est après tout, vu tout ce qui passe, et ben finalement, un viol de plus, c'est pas grave. Et ben en fait, dans cette étude, la perte de notion de consentement est en lien direct avec le temps passé devant des pornos. C'est proportionnel en fait. C'est-à-dire que plus vous regardez de pornos et plus vous avez du mal à voir où se trouve la limite du consentement. Voilà, alors c'est un peu étrange de le dire comme ça, mais en fait, le consentement devient une notion floue. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mises en scène, notamment d'actes de viol, d'actes forcés, de choses comme ça. Donc du coup, ben, ça influe quand même sur l'état d'esprit. Alors clairement, il ne s'agit pas pour moi d'interdire, mais il s'agit bien de s'éduquer et d'éduquer, de préparer à regarder comme on peut le faire avec des films d'horreur ou de tueurs en série. C'est-à-dire qu'en général, on essaye bien de dire aux gens, tu sais, les tueurs en série, c'est des gens dangereux, même Dexter. Voilà, non, mais c'est tout bête. Hein. Selon un psychiatre, Philippe Breno, il faut aussi réapprendre la différence entre le formatage et le fantasme. Comme lu dans un article sur les fantasmes, il faut se souvenir que ceux-ci sont liés à notre imagination. et que c'est pas du prémâché comme peut l'être le porno, par exemple, ou comme peut l'être le fait de lire quelque chose de pornographique. Ça enferme, en fait, dans des catégories et des visions uniques qui sont celles de celui qui filme ou de celui qui vous vend le truc et qui ne sont pas vos visions à vous. Mais d'ailleurs, c'est valable pour tout le cinéma, hein. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, en général, vous avez la vision du réalisateur. C'est pareil dans le porno. Donc, il faut réapprendre à s'exciter sans porno. C'est très important. C'est-à-dire s'exciter tout seul. Ou toute seule. Comme un grand, comme une grande. Voilà. Je dis cette phrase qu'elle m'a fait rire. De même, il est à noter que si 98% des hommes pratiquent la masturbation, selon une étude de l'INPES, Institut National pour l'étude à la sexualité.
Et les deux derniers pourcents ont menti.
Seulement 60% des femmes la pratiquent et dans des proportions bien moindres que les hommes. C'est-à-dire que si elles le pratiquent, elles le pratiquent dans beaucoup moins que les hommes. C'est clairement dû à ce dont je parlais au-dessus, c'est-à-dire le poids de la société, le machisme, le patriarcat, et surtout lié à une éducation très différente entre filles et garçons. Et ça, c'est issu du poids du religieux aussi et du poids de l'éducation en général. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas les filles comme on éduque les garçons, enfin dans la majorité des cas. Et par exemple, on va dire à un petit garçon qui se touche la nouille, « Oh, c'est marrant, continue à te toucher la nouille. » Voilà, on va dire à une petite fille qui se touche, alors je sais pas, je sais pas comment dire, la fleur, comme disent certaines personnes.
La mounette.
La mounette, voilà. Et ben en fait, du coup, on va lui dire « Arrête, c'est sale », dans la majorité des familles. Et donc, du coup, ce rapport n'est pas du tout le même. Et donc, du coup, ben, on se dit, si c'est sale, on doit pas y toucher. Et vous voyez, ça découle de ça. Donc, pour une meilleure sexualité, il faut exploser les carcans, se connaître, s'apprivoiser, connaître ses zones érogènes et de plaisir, ses envies, ses voies vers la jouissance, et pour cela, la pratique masturbatoire est centrale. Devenir des branleurs et des branleuses, en gros. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Mais bien sûr, éviter de se faire ça que devant le porno. Le piston n'est pas obligatoire, rappelons-le.
Le piston ?
Eh oui, le piston. Ben oui, la pénétration est un des moyens de prendre et de donner du plaisir, mais c'est pas le seul. Voilà, c'est un petit peu comme dans une voiture, il n'y a pas que des pistons. Un peu d'imagination, que diable. Prenons notre temps, caressons-nous, enfilons-nous avec des toits, des objets, voilà, effleurons-nous, masturbons-nous mutuellement, masturbons-nous sans entrave, réduisons, en fait, arrêtons de réduire les rapports sexuels au simple coït avec une queue, c'est tellement réducteur. D'ailleurs, je vous rappelle, mesdames, messieurs, et surtout messieurs hétérosexuels, il y existe des lesbiennes, et elles n'ont pas de queue, jusqu'à preuve du contraire, mais je vous rassure, elles savent faire l'amour aussi. Ouais. Voilà. Et par-dessus tout, ce qui doit primer, c'est le dialogue. Et ça, c'est le vrai problème, et ça, toutes les études le confirment. Aujourd'hui, dans notre époque, à notre époque, contrairement à ce qu'on croit, on est dans une époque où on parle assez peu. Et on parle peu, finalement, y compris de l'acte sexuel ou pendant l'acte sexuel. Alors rappelez que l'acte sexuel c'est pas que mécanique et qu'il est avant tout du partage. Alors il peut y avoir des gens qui tripent à mort de faire des trucs sans partage, sans dialogue, sans quoi que ce soit. Ça reste une minorité. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je suis juste en train de dire que dans la majorité des cas, le dialogue c'est cool. Voilà.
Il faut déjà être d'accord pour savoir qu'on veut pas parler.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, déjà rien que de se le dire. Ouais, plan no blabla comme on dit maintenant sur les applications. Voilà. entre deux. En fait, donc l'acte sexuel, ça doit être resté un échange entre deux ou plusieurs personnes, parce que après tout, on n'est pas obligé de faire ça qu'à deux non plus. Hein. Mais rappelez aussi que la bouche, c'est un organe sexuel, mais pas que pour lécher et sucer. Hein. C'est qu'elle permet de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Elle permet d'enflammer par les mots. Elle permet aussi d'enflammer par les fantasmes qu'on partage. Et verbaliser ses envies, ça permet des fois, souvent, généralement, d'arriver à des choses plutôt positives. Voilà, ce ne sont que quelques conseils glanés à droite à gauche, dans des lectures, des émissions de radio et de télé.
Même si tu l'as un petit peu dit, etc. Oui, oui, messieurs, quand vous avez éjaculé, vous avez encore plein de possibilités.
C'est là que j'en venais. C'était ma conclusion. Parce que l'idée, c'était pas d'avoir de nouveau une sorte de bible du savoir jouir donnée à la causerie, parce que franchement, d'abord, on n'écrit pas de livre saint, ça se saurait. Mais c'était plutôt pour défricher et ne pas oublier, donc, comme je le disais, que ça ne s'arrête pas quand monsieur a terminé, parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on reste là-dessus, d'où ce chiffre de 16%, et que donc, en fait, on peut continuer à se faire du plaisir et à se donner du plaisir même quand monsieur a joui. Voilà, je vous rassure, ça marche encore. Vos doigts ne tombent pas après une éjaculation, vos langues non plus, vos mains, enfin voilà, bref, vous avez compris. Voilà. Et moi, j'espère que si on arrive à bien trouver un petit peu plus d'entente, de dialogue, et puis un petit peu plus de bienveillance envers les uns, envers les autres, surtout messieurs, envers mesdames, parce que c'est globalement dans les relations hétérosexuelles que ce chiffre devient le plus vrai possible, eh bien, j'espère que demain, on passera de 16 à 90% pour les femmes, hein, 16% de femmes qui ont eu un orgasme lors de leur dernier rapport, à 90% qui diront « j'ai eu un orgasme lors de mon dernier rapport », et que ce soit pour le coup une putain de bonne nouvelle. Voilà.
Je suis d'accord.
Très bien.
Elle plus soit.
Ouais, on est un peu à la bourre. Mais enfin, En fait, ce que je me disais, c'est que par rapport au porno, mais comme à d'autres sujets, quand on a parlé, par exemple, toi, la semaine dernière, des médias, Stan, en fait, c'est l'esprit critique, quoi. C'est-à-dire, prenez pas un porno pour une réalité, parce que là, c'est vraiment, c'est pas une réalité, c'est un cinéma. Et que là aussi, il faut s'interroger sur justement ce qui véhicule, en fait, majoritairement, ce truc-là. Et ce truc-là, quand même, majoritairement, c'est du patriarcat, c'est de la violence, c'est des choses qui sont quand même... Enfin, je veux dire, j'aimerais quand même rappeler ici que le premier, enfin, que Gorge Profonde, qui est un des premiers pornos, c'est un viol qu'on filme. Quand vous regardez Gorge Profonde, c'est un viol que vous regardez. Donc, c'est pas un truc nouveau, quoi, que l'industrie du porno a un truc dégueulasse. En tout cas, majoritairement. Donc, c'est oui, effectivement, il y a d'autres moyens de faire. Il faut interroger tout ça, quoi. Et effectivement, mettre des mots, mais c'est, enfin, j'ai presque l'impression que c'est un peu un truc. Qu'à la causerie, on dit souvent, c'est remettre des mots sur plein de choses, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mais parce qu'on cause.
Ben oui.
Donc on met des mots. Non, moi je voulais juste te dire, il y a aujourd'hui tellement. Enfin, j'ai beaucoup parlé du porno et les gens me disent toujours, mais pourquoi tu relis ? Et ben en fait, juste parce qu'en fait, la plupart des études sociologiques ou psychologiques font un lien très, très fort entre la pornoification de la société et partout, hein, dans la pub y compris. Enfin, je veux dire, on voit en fait finalement de la sexualité, la sexualisation énorme de la société d'aujourd'hui, avec les troubles et les problèmes rencontrés par beaucoup de gens qui consultent voilà, pour des problèmes intimes, comme on dit. Et donc, du coup, c'est pas anodin et c'est pas juste une mode ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment. Et à tel point que maintenant, on a même des porn studies qui commencent à exister, où on commence dans la sociologie, à essayer de voir quel est l'impact de la porno, des pornos, en fait, sur la société. Voilà.
Je vais juste rajouter un petit truc. C'est tout ce que je disais sur l'industrie porno ne concerne pas que l'industrie du porno hétéro.
Non,
les scènes de violence, d'obligation, etc. touchent aussi les films homo au sens large. Donc, les LGBT, vous dites pas juste c'est un problème des hétéros. Non, non, en fait, les choses dégueulasses que véhicule l'industrie pornographique, elle est partout, pour tout le monde.
Voilà. Il y a un vrai décalage entre l'éducation pornographique et l'industrie, enfin, et ce qu'on a accès maintenant, en fait. Il y a cette très très faible éducation sexuelle qui a pas beaucoup évolué ces derniers temps par rapport à l'industrie du porno qui elle a beaucoup évolué et qui est présente partout, qui est accessible tout le temps partout. C'est pour ça qu'on parlait un petit peu au début en disant que ça, ce qui fait partie de l'éducation du porno actuellement, c'est le porno.
Oui, c'est bien le problème, c'est qu'il n'y a pas justement de
il n'y a pas d'éducation
en fait. Aux médias comme tu disais la semaine dernière.
Voilà.
Et ben qu'est-ce qu'on fait, on
musique.
Passe à... ok.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, c'est des finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Viril, 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 viril
mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Et de retour dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu, radiocanu.org. Et donc, bah, c'était, je sais pas là qui écrit son nom, c'est là. Eddie de Préto avec Kid. Un petit rappeur assez intéressant, belge, et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. C'est très, 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 très étrange, mais bien.
Oui, voilà. Mais c'est bien d'attaquer un peu le virilisme.
Ah, mais oui, tout ça. Mais pas que ça, il attaque plein de sujets, oui. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
Voilà. Oui. Eh ben, allez, parce qu'on est un peu.
Bref.
On est un peu à la bourre, donc ce sont les brèves pour la semaine à venir. Donc. Comme tous les lundis, c'est la permanence juridique d'aide aux sans-papiers et à leurs proches. C'est toujours à la Lutine, c'est toujours au 91 rue Montesquieu et c'est toujours de 18h30 à 20h, donc tous les lundis, tous les lundis, tous les lundis.
Mercredi 18 octobre 2017, c'est le Ciné-Club Éco-Citoyen de Lyon 4e, relais local de la revue Silence, qui présente Maman Colonel à 20h à l'Aquarium Ciné-Café 10 rue Dumont dans le 4e. À travers le portrait de cette femme d'un courage et d'une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde la question des violences faites aux femmes et aux enfants en République démocratique du Congo. Il y aura un débat animé par Yvette Kawila, qui est infirmière à l'hôpital de Béni, réfugiée en France en raison de menaces de mort, et qui sera présente pour répondre à vos questions sur la République démocratique du Congo. Son forfait, elle partait soigner les femmes violées et leurs enfants dans la brousse. Voilà. Et c'est peut-être qu'il y aura aussi une représentante d'Amnesty International. Donc, je le redis, c'est mercredi 18 à 20h à l'Aquarium Ciné Café 10 rue Dumont dans le 4e.
Et le rendez-vous suivant, c'est donc jeudi 19, c'est rencontre avec Barbara Balzerani, qui est auteure du livre Camarade Lune. Donc c'est à 19h à la librairie Terre des Livres, qui est dans le 7e arrondissement, au 86 de la rue de Marseille. Donc qui est donc Barbara Balzerani? Bah, elle a été l'une des rares femmes membres des dirigeants. Femme membre des dirigeants des Brigades Rouges. Donc, dans l'enceinte de la prison haute sécurité, où elle a été incarcérée pendant de nombreuses années, elle a eu tout loisir de réfléchir à son parcours, à ses origines, de réexaminer, de réflexions politiques, de questionnements philosophiques qui l'ont conduit à un tel engagement. C'est ce qu'elle fait dans cet ouvrage incontestablement autobiographique, où elle développe un style narratif extrêmement personnel qui lui permet de combiner monologue intérieur, introspection et analyse affûtée et lucide du contexte politique agité des années 70. Donc jeudi 19 octobre à 19h à la librairie Terre des Livres. Et le rendez-vous suivant, bah, c'est la causerie dimanche prochain, comme tous les dimanches, de 22h à 23h.
Au 24 rue Sergent Blandan. Dans le premier.
C'est ça. Et ben, on va se quitter
en musique.
Mais oui, qu'est-ce qu'on va écouter?
Et on va écouter Aurora, et avec le titre Warrior.
Et ben voilà, on vous souhaite une bonne.
Et on peut quand même dire à tout le monde que dans les trois causeries qui viennent, la technique sera vachement moins bien. Voilà, on voulait vous prévenir.
Mais pas
si,
plus.
C'est vrai.
Mais tout le mystère reste entier, vous verrez par vous-même.
Vous, enfin peut-être que
vous entendrez surtout.
Ou pas.
Ou pas.
Ça ne sera rien.
Si on n'arrive pas à allumer le bouton. Et bien on vous souhaite une bonne fin de soirée, bon courage pour la semaine à venir, et puis bah, dimanche prochain pour nous, et puis voilà.
Passez une bonne semaine.
Bonne soirée.
Ciao.
Ciao.